Nathalie Jobin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes co-directrice de Nutrium, le centre de nutrition préventive de l'Université de Montréal. On est là aujourd'hui pour peut-être aider les parents qui ont des enfants autistes à la maison, à les aider en fait à encourager leurs jeunes à avoir de saines habitudes alimentaires. Et tout à l'heure, d'entrée de jeu, je donnais cet exemple d'une amie, maman d'un petit garçon qui vit avec l'autisme, qui refuse de manger des aliments de couleur verte, donc reliés vraiment à une couleur spécifique. Ça peut être l'un des problèmes qui touche les jeunes autistes.
Effectivement, en fait, ben, ce n'est pas tous les enfants autistes qui vont présenter nécessairement des troubles lors des repas, que ce soit au niveau du comportement ou dans les particularités alimentaires, comme vous venez de le mentionner, c'est un bel exemple. Mais la littérature semble dire que lorsqu'il y a présence d'un de ces troubles chez des enfants autistes, ils sont là pour, ils sont peut-être plus profonds que chez des enfants avec un développement normal. Et donc, ça, c'est certain que ça implique un niveau de stress supplémentaire pour les parents, effectivement.
Mm-hmm. Nathalie Jobin, est-ce qu'il y a d'autres problèmes alimentaires qui peuvent être reliés aux troubles du spectre de l'autisme?
Bon, ben, comme on le disait, donc les particularités alimentaires, quand on voit un problème, c'est probablement ce qu'on retrouve le plus souvent chez ces enfants-là. Donc, ce qui implique le répertoire alimentaire des enfants est restreint. Il y a une grande sélectivité, peu d'appétit. Il peut avoir un rejet systématique de certains types d'aliments, comme vous l'avez mentionné, soit relié aux couleurs, mais ça pourrait être relié à la texture, aux températures. Donc, on appelle ça une néophobie qui est vraiment tenace. Et nécessairement, ça se traduit par un impact sur la variété de l'alimentation. Donc, effectivement, il peut découler de ça du point de vue de la qualité de l'alimentation, certaines carences, ou à l'inverse, à l'opposé, donc des enfants qui ne mangeraient, par exemple, que des aliments riches en glucides raffinés pourraient peut-être amener un excès de calories et un surplus de poids. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant chez les enfants autistes que chez les enfants avec un développement normal, l'alimentation a effectivement un impact sur la santé de l'enfant, la santé immédiate, mais aussi sa santé future, c'est-à-dire que la présence d'un surpoids ou d'obésité à l'enfance peut avoir des effets à l'âge adulte qui sont pas négligeables non plus, donc qui vont s'additionner aux troubles présents de l'autisme. Donc, c'est certain qu'on sait que les parents d'enfants autistes doivent composer avec beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et parfois, ils choisissent leur bataille et c'est tout à fait compréhensible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'alimentation, il y a quand même des effets qui sont non négligeables si on n'y porte pas attention. Mmh.
Je fais une petite parenthèse, Nathalie Jobin. De notre côté, c'est très, très bruyant derrière vous.
Oui.
Je pense peut-être à nos auditeurs là, pour qui ça peut être un petit peu difficile. Donc, je fais juste le souligner si jamais...
Oui, désolée,
ouais. Et notamment, parlant de caprice, là, c'était aussi un lien également avec mon autre question. Comment, en tant que parent, on peut arriver à départager ce problème alimentaire qui est lié à l'autisme et un simple caprice lié à l'enfance?
Mm-hmm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enfant, autiste ou non, présente entre l'âge de 2 à 10 ans de la néophobie, c'est-à-dire de la peur des nouveaux aliments, des nouvelles textures. Ils vont refuser systématiquement la nouveauté. Donc ça, c'est aussi vrai chez les enfants à développement normal que chez les autistes. Par contre, ce ne sont pas des caprices à ce moment-là, ça fait partie vraiment du développement normal. Donc, en tant que parent, ce qu'il faut faire, c'est vraiment donc persévérer à leur présenter les aliments, même ceux qui ne sont pas aimés ou tolérés, les présenter de différentes façons. Apprêtés de différentes façons, cuits de différentes façons. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la patience. C'est-à-dire qu'il faut la présenter aux enfants, on dit jusqu'à 15 fois, même pour un enfant qui a un développement normal. Et pour les enfants autistes, ça peut donc augmenter beaucoup la quantité de fois qu'on doit présenter un aliment à un enfant avant qu'il ne l'accepte. Donc, les caprices, c'est au-delà de ça, là, et je pense que c'est facilement reconnaissable là, quand on voit qu'on représente à chaque fois et que la réponse est très négative. Ça peut peut-être être plus du côté des caprices, mais à cet âge-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal que ça survienne.
Et faut-il céder aux demandes? Je lisais différentes figures de cas, comme par exemple un enfant qui va accepter de manger que si sa nourriture est trempée dans le ketchup. À un moment donné, c'est bien parce que l'enfant arrive à manger, mais d'un autre côté, c'est toujours masqué. On sait que le ketchup, c'est plein de sucre, par exemple. À quel moment, de quelle façon balancer ces demandes-là?
Bien, c'est certain que ça peut être long comme processus. Ça demande de la patience, mais ça demande aussi de la part du parent d'exercer son rôle de modèle. Donc, de peut-être montrer à l'enfant de par son propre comportement à quel point l'aliment que l'enfant mange seulement avec du ketchup peut être savoureux sans ce ketchup-là. Donc, de lui présenter de différentes façons. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment une des façons de faire qu'on recommande aux parents de faire, en fait. Et c'est sûr que de temps en temps, d'ajouter le fameux ketchup, c'est pas non plus une mauvaise chose. Mais lorsque ça devient systématique, mais ça se peut aussi que ça fasse partie du trouble de l'enfant ou de l'apprentissage. Oui. À ce moment-là, il n'y a peut-être rien à faire. Donc, on vaut mieux mettre ses efforts sur d'autres aliments ou d'autres choses du repas qui peuvent s'améliorer.
Ces problèmes alimentaires-là, ils peuvent survenir dès la naissance, là, dès l'allaitement, par exemple.
Oui, absolument. Oui, ça peut se présenter dès la naissance. C'est un, il peut y avoir des troubles au niveau de la succion, etc. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut aller vraiment demander l'aide de gens compétents dans ce domaine-là pour ne pas... pour éviter d'arrêter l'allaitement, parce qu'on sait que l'allaitement est vraiment ce qu'on recommande là. Donc oui, il faut aller chercher de l'aide le plus possible. Mais aussitôt que l'enfant commence à manger, c'est important de lui offrir une grande variété d'aliments, d'y aller petit peu par petit peu pour l'introduction et vraiment d'agir comme modèle en tant que parent.
Oui, ça revient souvent dans vos propos, Nathalie Jobin. À titre de modèle aussi, il y a la fratrie, grand frère, grande sœur, etc. Par contre, et je reviens avec l'exemple de cet ami-là qui a une grande fille aussi et qui me disait, on ne peut pas avoir les mêmes demandes envers elle puisqu'on permet tellement de choses à son frère. Donc, faut-il faire des repas très particuliers, spécifiques pour l'enfant qui vit avec l'autisme ou peut-être plus exiger qu'il consomme le repas familial?
En fait, normalement, on essaie de ne pas faire un repas particulier pour l'enfant autiste. On essaie de faire en sorte qu'il y ait un seul repas. Puis ça, je dis que c'est ça pour les enfants autistes, mais même pour les enfants, il y a plein de familles qui font ça aussi pour des enfants qui sont dits capricieux, où on fait des repas spéciaux. Mais normalement, on devrait éviter ça. Là. Dans le cadre des bonnes pratiques, là, c'est vraiment ce qu'on devrait éviter. Donc, un seul repas. On ne devrait pas non plus donc exiger de l'enfant de manger entièrement son assiette. Il faut respecter ses signaux de satiété. Peut-être, bon, on peut quand même, à l'intérieur du repas familial, on peut quand même porter attention. Si il y a deux, on prévoyait manger deux sortes de légumes différents et qu'il y en a un qui est vraiment, vraiment détesté de la part de l'enfant autiste, on peut lui en mettre un tout petit peu, juste pour dire qu'il y en a dans l'assiette et qu'il se familiarise à nouveau avec cet aliment-là. Mais on va pas non plus ne mettre que ça pour ne pas le décourager. Donc, il y a des stratégies comme ça qu'on peut faire, mais normalement, et ça met beaucoup de stress et d'efforts supplémentaires lors de la préparation de repas, là, quand les parents se soumettent à faire des repas spéciaux pour selon les goûts des membres de la famille. Donc, normalement, c'est un repas. Et c'est ce qui est consommé.
On parle d'inquiétude ou de stress engendré par la préparation des repas, mais quand l'enfant refuse de manger pour les différentes raisons énumérées plus tôt, Nathalie Jobin, il y a des carences qui peuvent survenir, retard de croissance également. Ouais. Est-ce qu'il faut pallier avec des suppléments nutritionnels?
Bien, ça, ça dépend évidemment si si le fait que l'enfant ne mange pas beaucoup dure dans le temps, à ce moment-là, il y a probablement on a probablement raison de se questionner sur sur la qualité de sa diète et savoir s'il consomme suffisamment d'éléments nutritifs. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut aller consulter peut-être pour évaluer s'il y a besoin de suppléments ou encore peut-être pour nous faire aider de façon plus spécifique pour pallier à ces troubles-là que l'enfant présente au moment du repas, donc pour peut-être donner des trucs aux parents pour que ça soit plus facile, plus aisé.
Ce que l'on sait également sur l'autisme, c'est que les gens qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme ont de la difficulté à gérer les changements. Ils préfèrent la routine. Oui. Or, plus l'enfant vieillit, il va à l'école, il a une vie sociale, des amis, est amené à manger à l'extérieur, par exemple. Comment vivent ces nouvelles expériences-là? Elles sont vécues comment par les enfants?
Mais en fait, ce qu'on a pu voir, parce qu'on a fait un petit sondage auprès de 18 mamans d'enfants autistes, et bon, c'était très, très variable en termes d'expérience. Il y en a pour qui c'était assez aisé d'aller au restaurant avec leur enfant. Je pense qu'ils savaient aussi quels pourraient être les problèmes éventuels au restaurant et tenter de pallier ça en apportant peut-être ustensiles, napperons, etc. Donc ça, c'est une option. Il y en a pour qui des enfants, en fait, c'était très simple. Puis d'autres, ben c'était quasi impossible parce que les comportements de l'enfant à table étaient tout à fait incontrôlables et difficiles à être acceptés publiquement dans un restaurant. Donc à ce moment-là, il faut peut-être attendre un petit peu plus tard que l'enfant soit plus vieux. Mais comme je vous dis, c'était assez variable. Donc, si plutôt l'enfant présente des particularités au niveau de la sélectivité ou de l'hypersensibilité au niveau des aliments, ça peut très bien, on peut quand même aller à l'extérieur pour manger puis à choisir des aliments sur le menu qu'on sait que ça va convenir à notre enfant. Mais lorsque l'enfant présente plutôt des comportements, des bruits courts, reste pas assis à table, etc., bien, ça peut peut-être être plus compliqué, effectivement.
Oui, oui, c'est autre chose.
Ah ouais.
Et encore, dans cet amour de la routine-là, on peut deviner que ça peut être difficile d'introduire de nouveaux aliments au régime alimentaire de l'enfant.
Oui. Bien, la clé, c'est vraiment d'essayer de commencer le plus tôt possible, donc de pas limiter le répertoire alimentaire. Donc, aussitôt que l'enfant commence à manger comme le reste, ou en fait, commence à manger, là, mettons, à un an, là, qu'il commence à manger un peu comme que les autres membres de la famille mangent, c'est d'essayer vraiment d'élargir le répertoire. Mais comme je vous disais, donc en présentant des petites portions des nouveaux aliments avec des aliments connus dans l'assiette, de les présenter sous différentes formes, sans les dissimuler ou les cacher, parce que je pense pas que ce soit une façon efficace de que l'enfant reconnaisse cet aliment-là et éventuellement l'apprécie pour ce qu'il est. Donc, c'est de le présenter sans le cacher, mais de l'apprêter de différentes façons, de les couper aussi sous différentes formes, en petits cubes, en rondelles, quand on parle des légumes, par exemple, dans une petite sauce bouillie, sautée. Bon, alors, il faut vraiment persévérer. Comme je vous disais, on peut aller jusqu'à 15 fois avec un enfant à développement normal, donc ce nombre de fois-là peut être beaucoup plus grand pour un autiste, mais il faut persévérer. Et la plupart des mamans à qui on a parlé là, dans notre petit échantillon, en fait, ils ont observé qu'avec de la persévérance et de la patience, ils venaient à élargir le répertoire de leurs enfants.
Persévérance et j'entends aussi créativité, là, moi, dans tout ça, Nathalie Jobin.
Oui.
En terminant, on a entendu parler quelques fois dans les dernières années d'un régime particulier à adopter, un régime alimentaire, bien sûr, quand on a un enfant qui vit avec le TSA, à savoir sans gluten, sans caséine. Mais c'est pas prouvé, à moins que vous me corrigiez puis vous me disiez que ça l'est.
Il n'y a pas d'études scientifiques là, qui démontrent que c'est efficace pour diminuer diminuer les particularités. Donc, d'un point de vue scientifique, il n'y a rien qui démontre ça jusqu'à maintenant, mais d'un autre côté, il y a certains parents qui observent des changements positifs. Donc, faut quand même voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces diètes-là sont assez restreignantes et difficiles pour les parents qui préparent les aliments, mais aussi pour les enfants, difficiles à suivre peut-être à long terme. Donc, faut voir si ça vaut la peine de mettre tous ces efforts. Pour l'instant, la science nous dit que non. Mais peut-être que ce sera autrement dans quelques années quand on aura plus d'études, mais pour l'instant, il semble pas y avoir de lien.
Et en terminant, là, c'est vraiment ma toute dernière question, est-ce que ça se passe, ça, ces problèmes alimentaires-là en vieillissant?
écoutez, ça c'est difficile à dire parce que c'est tellement variable d'un cas à l'autre, mais... certaines mamans à qui on a parlé qui avaient des enfants peut-être un petit peu plus vieux, il semblerait que oui.
Bon, il y a de l'espoir.
Que ça s'amoindrit, qu'il y a une certaine souplesse qui s'installe, mais tout à fait variable d'un enfant à l'autre. Et
bien
sûr. Mais oui, il y a quand même de l'espoir.
Chaque enfant est unique, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Nathalie Jobin, vous êtes co-directrice de Nutrium, le centre de nutrition préventive de l'Université de Montréal. Merci, ça a été un plaisir de vous
parler
aujourd'hui.
Ça a été un plaisir, désolée pour le bruit.
Ça a été un plaisir malgré le bruit. Merci.
Au revoir.
Au revoir.